Dialogue entrecontrôlé, présenté par Alain Hirung. Bonsoir. Transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales. 60 jours après le délai d'expiration, quel bilan dressé de ce processus? Et que faut-il pour rendre les entreprises congolaises plus compétitives? 3 invités participent à cette émission. Professeur Boabo Akayembe, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Professeur Boabo, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Professeur Bagnacou Loapi, professeur à l'Université de Kinshasa et analyste politique. Professeur Bagnacou, bonsoir.
Bonsoir.
Alex Kitenge, analyste économique et directeur général de Synergie Group. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Vos réactions nous sont déjà parvenues. Jackson Kiyumbi de Kinshasa. Le bilan est hyper négatif. Les entreprises congolaises sont en train de souffrir de la mauvaise gestion des dirigeants qui n'ont pas encore compris la réforme, raison pour laquelle, depuis le processus de transformation, rien ne change. L'exemple de la RVA et des autres. Je pense qu'il faut mettre l'homme au centre de tout, qu'une formation des chefs d'entreprise sur la gestion d'entreprise afin qu'ils puissent faire la différence entre l'entreprise et le parti politique. Augustin Kaindo Mouissi de Boutembo Nord, qui vous. Plus les entreprises publiques demeureront contrôlées par les politiques, tant au niveau des nominations de cadres qu'à propos des prélèvements financiers clandestins, moins elles seront efficaces malgré la mutation des statuts juridiques. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Toutes les entreprises de l'État avaient obtenu au 31 décembre 2010 des nouveaux statuts pour devenir les unes des sociétés commerciales et les autres des établissements publics dans le cadre du processus de transformation des entreprises publiques. Ce processus bicéphale comportait un premier volet juridique et le second économique. Pour insuffisance de résultats en 2009, le Premier ministre avait fixé une deuxième échéance au 31 décembre 2010, date à laquelle tout le processus devrait être parachevé. Mais 2 mois après ce délai, seule la phase juridique semble être arrivée à terme. La transformation économique piétine encore, comme nous le dit Daniel Sambinzoli.
La transformation économique avait commencé avec la fixation des capitaux minima de chacune de ces entreprises. Capitaux minima parce qu'il était difficile et encore difficile aujourd'hui de connaître la vraie valeur de ces entreprises. La transformation économique consiste à assainir les sociétés pour les rendre compétitives, présenter les états financiers et les bilans réels de fin de période. Or, pour arriver à présenter les états financiers sains, il faut résoudre les questions des dettes croisées des entreprises, par exemple la SNEL qui doit de l'argent à la régie des eaux et vice-versa. Il faut aussi résoudre les questions des dettes possédés, ce sont les dettes que l'État propriétaire avait contractées au bénéfice de ces entreprises, mais qui les payera maintenant que ces entreprises sont devenues des sociétés commerciales? La transformation économique suppose aussi que l'État, qui est jusqu'à présent seul actionnaire, puisse ouvrir les capitaux de ces sociétés commerciales au privé. Mais selon nos sources, on ne peut ouvrir les capitaux que lorsqu'on connaît le patrimoine de son entreprise. Une autre épine dans les pieds de la transformation économique, c'est l'influence des ministres qui continuent à donner des injonctions aux gestionnaires pendant que la tutelle pour la société commerciale n'existe plus. L'État propriétaire doit donc prendre beaucoup de décisions et des décisions politiques pour que, effectivement, décolle la transformation économique des entreprises.
Merci Daniel Tambizoni. Notez que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du COPIREP, comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, se sont avérés vains. Professeur Bagnacou, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa et analyste politique. Quel bilan vous vous dressez de ce processus de transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales?
Parler de bilan, c'est peut-être un peu prendre le maître la charrue avant le bœuf. Il faut voir plutôt les fonds. Vous savez, dès le départ, nous disions, je crois que le professeur Boba ne peut pas me contredire, la privatisation, c'est une théorie qui a fait son école. Depuis la période où l'Amérique latine avait fait les grandes nationalisations, vers les années 60 et 60 jusqu'à 70, C'est donc l'option de privatisation ou tout simplement de libéralisation des capitaux a entraîné en quelque sorte des analyses, des études très profondes où beaucoup de Congolais y ont participé dans ces analyses et publications. C'est donc la notion, la théorie même de la privatisation, c'est d'abord une théorie de l'offre de capital qualitatif. Donc vous ne pouvez pas aller offrir, comme on l'a dit ici, des canards boiteux et dire voilà, je cherche ceux qui peuvent venir prendre ces canards boiteux. Et surtout, lorsqu'on sait comment on les a rendus boiteux, et alors là, il y a un problème. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt recentrer les débats. J'ai parlé des bilans, mais il n'y en a pas puisque c'est depuis pratiquement 20 ans qu'on est dans la privatisation. On n'a jamais commencé l'élément fondamental qui est dans la privatisation, c'est-à-dire la qualification du capital disponible.
Alors, professeur, parce que vous parlez de recentrer le débat, vous pensez qu'il n'y a pas de bilan. Cette transformation était-elle opportune pour vous?
Non seulement qu'elle n'était pas opportune, c'est ce que je vous explique ici. Moi, je prends la référence de Koïdo, que je connais très bien, pour avoir été ministre par deux fois dans ce secteur. Je laisse en 93, 94, je laisse le coût, le capital nominal des Koïdo, équipements immobiliers, actifs, avoir disponibles, et je dirais même avoir transféré, puisque là il y en a eu beaucoup, n'est-ce pas? Je laisse ça pratiquement à 500 millions et au coût réel. Ce coût réel, en ce moment-là, on pouvait parler de 1 milliard. Et qu'aujourd'hui, lorsque je retrouve Coïdro dans la valeur nominale qu'on donne actuellement, ça n'atteint même pas, je ne sais pas, ça n'atteint même pas 50 ou 60 millions de dollars. C'est ça, donc, qui complique un peu là. Donc, je pense qu'on n'a pas de but. Si il faut prendre les débats réellement, ce n'est pas en termes de bilan, mais en termes du processus qu'il faut le faire. Puisque là, ce n'est pas un bilan, c'est un raté.
Donc, le processus a été mal.
Ah, c'est un raté.
Et pourquoi c'est un raté?
C'est un raté puisque, à la base, le capital qu'on offre pour que ça soit commercial, c'est-à-dire pour attirer d'autres investisseurs, ce capital-là a été soit désapprécié, soit dévalué. Désapprécié, c'est qu'on n'a pas fait, je ne veux pas accuser Copyright, mais dans toutes ces sociétés, j'imagine et je confirme qu'il y a des études d'évaluation de capital humain, de capital immobilier, de capital actif, et tout ça là était bien, et même de certaines projections d'investissement qui étaient utiles pour l'épanouissement ou l'évolution des sociétés. Donc, ça existe. Le capital actif, le capital prospectif, ça existe. Mais, bon, écoutez, vous allez de manière unilatérale dire que nous privatisons, et remarquez, je ne sais pas si vous avez pris le journal officiel, toutes les actions dans ces États, donc la caisse d'épargne, tout comme Onatra comme la SNEL, c'est 10 000 francs par action. C'est ridicule. Comment vous allez comparer? Ben, c'est tout en un seul niveau. Ben, ce nivellement, ça signifie quoi? Ça signifie que vous jetez des capital et encore que personne ne va prendre, puisque la personne qui peut assurer la cotation de ce capital, par exemple à la bourse, par exemple dans les places financières, c'est impossible.
Alors, professeur, quand vous dites que le capital a été désapprécié, cela a-t-il été fait volontairement?
Je devine qu'il y a eu mauvaise bonne foi peut-être, mais il y a eu incompétence.
Dans les chefs de ceux qui ont...
Il y a eu incompétence, puisque vous vous souvenez, si peut-être que les gens ignorent, c'est 130 millions de dollars qu'on a mis à la disposition des copyrights pour arriver à assumer tous ces processus d'évaluation, processus de réévaluation et processus prospectif, c'est-à-dire là où on devrait chercher les actionnaires éventuels. Et ben alors, quand vous arrivez à dire, voilà, toutes les entreprises, comme je l'ai entendu tantôt, ben, l'évaluation n'a pas été valable. Est-ce qu'on a déjà, on avait suffisamment associé l'ONATRA, est-ce qu'on avait suffisamment associé la RVI, on avait suffisamment associé la SNL pour leur donner les valeurs actuelles? Et je vous rappelle, que les valeurs actuelles en dollars, ça fait 5 milliards de dollars. Et le capital initial des concessions en 60, c'était 50 milliards de dollars.
Professeur Bois, vous êtes directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à ANAPI. Le professeur Bagnacou, que vous venez de suivre, parle d'un processus raté. Partagez-vous cet avis.
Bon, je pense qu'il y a quelque chose de bien dans ce que le professeur Bagnacou a dit, mais j'ai aussi mon avis là-dessus. Je pense que le processus juridique qui a été conduit jusque-là a été plus ou moins bon, dans ce sens que on a pu déterminer la liste des entreprises qui devaient être transformées au niveau du gouvernement. On a pu amener le tout au Parlement pour une décision sur le désengagement. J'aimerais bien parler du désengagement plutôt que de privatisation. Et le Parlement a pris une loi pour accepter le désengagement et le tout est revenu au gouvernement pour pouvoir notamment fixer le capital des entreprises concernées afin d'aller vers la création de l'entreprise commerciale. Donc je vois quand même qu'il y a quelque chose de bon qui a été fait. Mais je me rends compte qu'à un certain moment, lorsqu'il faut passer aux choses sérieuses, il y a une sorte de tergiversation dans le chef, peut-être des responsables qui gèrent ces entreprises et dans le chef de certains responsables politiques. Donc je crois que nous devons accepter, avec le professeur Bagnacou, je suis d'accord que la gestion des entreprises publiques a été une calamité, a été désastreuse pendant des années, et qu'il faut maintenant chercher à trouver des solutions. On a fait un pas sur le plan juridique, et je crois qu'il faut faire des efforts pour faire aboutir le processus afin d'aller peut-être vers la création des entreprises mixtes qui permettraient de faire venir des capitaux prêts pour pouvoir permettre à ces entreprises de fonctionner.
Alors, professeur, quels sont les préalables pour transformer une entreprise publique en société commerciale?
Bon, je crois qu'il faut tout d'abord un processus juridique qui a été fait par Copyright et le ministère du portefeuille. Mais il faut aussi, je crois, sur le plan, disons, financier, essayer d'établir la valeur de l'entreprise en question qui va passer comme société commerciale. Mais je pense aussi qu'il faut une volonté politique dans le chef, notamment du gouvernement, pour effectivement aboutir à des entreprises commerciales qui peuvent contribuer à la production de biens et de services dans le pays. Parce que je crois que quelqu'un a parlé de l'homme, mais je ne pense pas que c'est toujours la faute des gens qui dirigent ces entreprises. Mais c'est la faute peut-être de la structure politique, du système, politique qui gère ces entreprises qui fait que, bon, ça ne peut pas. De telles entreprises ne peuvent pas arriver à produire des biens et de services. Donc, maintenant, je crois que ce qu'il faut mettre comme préalable, c'est la volonté politique de pousser les choses de l'avant.
Alors, parmi les préalables, professeur, vous citez la valeur de l'entreprise, mais à suivre de près, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu beaucoup de mal à fixer, à évaluer leur patrimoine.
Bon, tout d'abord, ce n'était pas indiqué de faire établir ce patrimoine par les personnes qui, pour le moment, dirigent ces entreprises. Il lui fallut mettre en place des directoires tout à fait indépendants des personnes qui dirigent ces entreprises. On y résiste avec des experts, des consultants et tout ça, qui auraient dû le faire. Et ensuite, s'il s'agit des entreprises qui, pendant des années, n'ont jamais établi de bilan, décider quand même, à un certain moment, qu'elles puissent fixer la valeur du capital de ces entreprises, c'est assez laborieux. Parce qu'on se réfère aux différents bilans qui ont été établis, et dans le cas d'espèces, il n'y en a pas du tout. Je crois qu'il faut quelque part fixer des sommes forfaitaires à mettre dans les statuts de ces entreprises et essayer d'aller avant.
Professeur, l'émission, vous le savez, est aussi pédagogique. Il y a aussi une de Bukavu qui vous demande. Pouvons-nous savoir, connaître la différence qu'il y a entre une société publique et une société commerciale et quel pourrait être l'impact d'une société commerciale dans la vie de la population?
Bon, je pense qu'une entreprise publique peut être considérée également comme une société commerciale, dans ce sens qu'elle est la permission de poser les actes de commerce, même en étant entreprise publique. Mais je crois que société commerciale, comme on l'entend pour le moment, c'est une société qui est placée sur le marché et dans laquelle des investisseurs privés peuvent prendre des actions à côté de l'État. Qu'ils ont moins d'actions que l'État, soit qu'ils ont plus d'actions que l'État pour pouvoir gérer ces entreprises-là. Donc la grande différence, c'est que dans les entreprises publiques, l'État a le monopole de la direction, et que dans les sociétés commerciales, la perspective est de pouvoir ouvrir le capital de ces entreprises à des privés pour attirer notamment les capitaux et puis la technologie, essayer de contribuer à la production des biens et des services dans le pays.
Merci, professeur. C'était aussi la préoccupation de Patrick Moutela de Kananga au Kasaï occidental. Avec Kikengé, vous êtes analyste économique et directeur général de Synergie Group. Vous avez suivi tour à tour le professeur Banyaku et le professeur Bois. Quelle est votre analyse à vous par rapport au processus de mutation des entreprises?
Je dois, de prime abord, avouer que la célérité avec laquelle on évolue dans ce projet qui est entièrement financé est quand même inquiétante. Nous sommes trop lents par rapport au calendrier qui était prévu. Cela démontre le malaise qu'il y a entre les deux acteurs en présence, à savoir le copyright et celui qui est censé être son chef, l'État congolais. Toute la difficulté part de là-bas. Le copyright procède de la volonté de la Banque mondiale, que cela plaise ou ça ne plaise pas. Ce qui fait que, de toute façon, censé être sous le commandement du gouvernement, il ne l'est pas du tout. Ce qui veut dire qu'en réalité, des fois, les options qui sont levées au niveau du copyright ne sont pas nécessairement suivies à la même vitesse au niveau du gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qui gêne. Ça montre tout le malaise qu'il y a entre nous et nos partenaires traditionnels, en l'occurrence la Banque mondiale. En fait, aujourd'hui, si on doit pour répondre à la question que vous avez posée au professeur Banyaku, il faut constater un échec. Mais c'est un échec à deux parents, le gouvernement et le copyright. Parce que, tout compte fait, vous savez, lorsque vous recevez un portefeuille important d'entreprises à transformer, le plus simple et le plus logique, c'est de faire d'abord les choses les plus faciles. Entre autres choses faciles, il y a une loi dans ce pays qui demande depuis 7 ans de séparer la poste des télécommunications. Ça, c'est des choses simples à faire, à mettre en place, pour être en mesure de doter le pays d'une poste qui marche parce que c'est le poumon d'une administration. Si déjà l'État peut fonctionner normalement, ça donnerait un peu plus d'impulsion à toute autre activité, en l'occurrence, cette activité de transformation des entreprises. Deuxième chose, une entité, quand elle est mise en place, elle est tenue à ce qu'on appelle en anglais les quick wins, les choses faciles, rapides à mettre en place, pour donner des résultats et bâtir la confiance, démontrer aux bailleurs de fonds ou aux commandeurs que nous sommes dans un processus de réussite. Le drame, c'est que quand vous regardez aujourd'hui les résultats du copyright, il n'y en a pas. Tout ce qu'ils ont essayé a échoué. La Gécamine a été un échec, on y a engouti des millions de dollars. La transformation au niveau de l'OCPT ou les travaux de démobilisation du personnel, ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à une catastrophe au niveau de l'ONATRA et de la RVA. À la limite, à un moment donné, on se pose la question de savoir si, du point de vue managérial, le copyright a les capacités nécessaires de faire avancer les choses, ou, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que c'est la volonté de copyright de faire avancer ce processus dans le sens qui pouvait être attendu par le gouvernement congolais? Il faut constater un petit divorce au niveau des orientations. Nous n'avons pas de résultats, nous n'avons pas une seule entreprise qu'on peut citer qui a été redressée, qui donne des résultats. Et donc, à mi-parcours, la transformation d'entreprise publique en société commerciale est une étape, mais c'est une étape passive qui ne donne pas aujourd'hui de résultats. Parce qu'en fait, l'objectif des sociétés commerciales, c'est d'être en mesure de donner des produits et des services de qualité. À la situation d'aujourd'hui, il n'y en a pas une seule qui est en train de s'acquitter de sa mission sociale déjà. Et donc, il faut quand même regarder ça avec beaucoup plus d'attention.
Alors, le professeur Banyaku, parmi les causes de cet échec, a cité un mot fort, l'incompétence. Et le prof Bois l'a dit entre les lignes, la volonté politique. Quelle est votre réaction?
Je vous ai montré la distinction qu'il y a entre le chef principal qui se trouve être l'État congolais et le copyright qui répond du point de vue de l'opération de la Banque mondiale. Et nous savons très bien qu'il y a un froid entre les deux entités depuis des années. Regardez les divorces respectifs auxquels nous sommes en train de faire face. Le dernier, c'est celui du projet Promine. Et donc, ce froid et ce chaud que l'on souffle tout le temps ne permet pas à ce mariage de pouvoir donner des résultats optimum. La vérité là-dessus, c'est que s'il y a une compétence ou s'il y a une capacité, c'est une incapacité des deux mariés, ça veut dire le gouvernement et le copyright qui est censé être son instrument.
Blaise Otombo de Kamanga au Kasaï occidental Alkitenge dit le bilan de ce processus de transformation est négatif car en RDC la culture de respect de délai dans l'exécution des tâches n'est pas encore enracinée dans nos mentalités.
C'est exact. Le Premier ministre a pris une décision politique, c'est pas une décision technique, de passer à une date bien déterminée aux entreprises, aux sociétés commerciales. Ce n'est pas parce que les gens ont été prêts, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont difficile à passer à la phase économique. La réalité, c'est que le Premier ministre a finalement terriblement honte. Par deux fois, les délais n'ont pas été tenus et donc on est passé en force. Mais là, il faut regarder les choses en face. Est-ce que ces entreprises sont soumises à la concurrence, comme cela est censé être pour les sociétés commerciales? Est-ce qu'elles payent les impôts? Est-ce qu'elles ont les moyens de pouvoir attirer des capitaux? Vous savez, ce qui fait une différence majeure entre une entreprise publique à l'ancienne et les sociétés commerciales aujourd'hui, c'est l'indépendance et le pouvoir que l'on remet entre les mains du gestionnaire. Et aujourd'hui, nous sommes censés avoir des gestionnaires responsables. Ils ne le sont pas. Pour être responsable, il faut être en mesure, ne serait-ce qu'à moyen terme, d'engager l'entreprise. Il n'y a pas un PDG qui peut prendre une décision aujourd'hui sans s'en référer à la hiérarchie. Et d'ailleurs, on a des nouvelles sociétés, mais il faut déjà désigner conformément au nouveau statut les nouveaux dirigeants et leur donner des missions très précises. Cette chose n'a pas encore été faite. Nous sommes dans un balbutiement qui peut être très dangereux dans la mesure où les gens qui ne savent pas si ils vont être là demain ou pas peuvent poser des forfaits graves. Et tout le monde sait malheureusement le manque de discipline que nous avons généralement chez nous qui peut permettre que quelqu'un sache qu'il va partir et qu'il mette la main dans la caisse de l'État tout en sachant que rien ne va lui arriver. Et je pense que là-dessus, le gouvernement doit rapidement, conformément au nouveau statut, être en mesure de mettre des organes de gestion classiques. Généralement, dans les sociétés commerciales, il y a toujours un conseil d'administration qui, lui, est l'œil et le regard de l'œil et l'oreille de l'actionnaire, aujourd'hui l'État. Mais au niveau de la gestion, c'est censé être les technocrates, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la politique ni l'amitié avec les actionnaires.
Professeur Bagnacou, prenons cette réaction qui nous vient de Kamanga au passé occidental pour vous.
Donc, il chamba de Kamanga au passé occidental. Le bilan de ces entreprises ne peut être qu'étudié. Mais la question fondamentale est celle de savoir qui paiera toutes ces dettes que le gouvernement avait comportées en faveur de ces entreprises quand elles étaient encore à 100% sous sa gestion. Est-ce que ce sont ces entreprises qui pourront assurer leurs dettes ou que l'État au relais?
Professeur Bagnacou, réaction.
Je pense que c'est une question permanente et complexe. Qui paiera la dette ou les dettes qu'on passait, c'est sûrement c'est la population congolaise, puisque nous sortons, là je fais un petit crochet, je rebondis un peu sur ce qu'a dit le professeur Brava, c'est bien bon de parler des désengagements, c'est même intelligent, puisque privatisation c'est un mot qui sonne fort dans le sens, mais l'actionnaire État qui se désengage, qui entre en partenariat avec d'autres associés, mais il se comporte comme un privé, il n'a plus l'impérium s'il n'a pas la majorité acquise, requise plutôt, pour pouvoir orienter par exemple l'organisation et la gestion. Donc il va se comporter maintenant comme un privé. C'est pourquoi moi je dis le bon, comme je le disais tantôt, le mot et les choses, on a trouvé un mot bien pour dire des engagements. Mais malheureusement, ce mot traduit justement la difficulté de qualifier la chose. La chose, c'est que vous allez à la privatisation, c'est-à-dire vous allez en compétition dans un marché financier ouvert, un marché de compétition, et non seulement de compétition, un marché de qualité, c'est-à-dire pour faire, même si il y avait une évaluation réelle de toutes ces entreprises, que ce soit par copyright, mais il y aurait eu des audits tout à fait externes pour pouvoir valider afin que ça passe dans la bourse. La bourse, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe lorsqu'on fait le marché de la bourse, mais c'est très complexe, c'est des marchés qui vont à vitesse du soleil.
Alors, professeur Bagnacou, que faut-il, la deuxième partie de cette émission, que faut-il pour rendre les entreprises congolaises plus compétitives?
Je crois je ne sais pas si c'est le premier intervenant qui avait, en fait, intervenant, le premier auditeur qui avait soulevé la question fondamentale que pour faire une évaluation, il faut arriver à faire toutes les dettes qui ont été contractées, les dettes croisées, les dettes prises en charge sous couverture ou sous garantie de l'État. Et ça, c'était la première chose. Et voir le capital est réel. puisque le capital est réel tel que je le comprends. On peut vendre un capital réel, même à Morsi, mais pourvu qu'on se rende compte que ce capital a de la valeur. Or, malheureusement, nous trouvons que le capital est lui-même déprécié.
Alors, cette appréciation, c'est ça, c'est clair. Mais, professeur, il y a également cette histoire de cette influence politique hein, qui continue à gangréner les entreprises aussi.
Parfois, je me dis que, bon, on exagère un peu cette influence, hein. On exagère un peu cette influence. J'ai continué, que ce soit les grands débats, que ce soit lorsqu'on parle de la corruption, lorsqu'on parle de la mauvaise gestion. Non, les termes propres que nous nous ont pas dit, c'est de l'incompétence. N'est-ce pas? La corruption, ça existe partout. La corruption a des limites. Mais quand vous faites corrompre, il faut savoir au moins les résultats que vous donnez. Parce que vous allez prendre, si quelqu'un qui a 60 millions a gagné, par exemple, en termes d'une fraude, et il vous donne 500 000, et vous prenez, non, vous prenez parce que vous n'avez pas compris combien il gagne, lui. C'est de l'incompétence. Nous ne sommes même pas un type de corruption, nous sommes de l'incompétence, pour le reconnaître, nous sommes incompétents.
Professeur Boisbois, il y a des auditeurs qui ont leur proposition, prenons cette proposition qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Parce que Mulongo de Lubumbashi au Katanga. Pour rendre compétitives les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, il faut un appel de capitaux frais en vue de renouveler ou mieux moderniser l'outil de production, recruter, former et accepter un personnel qualifié, remercier le personnel amorti par le poids de l'âge et dans le rendement féminin, organiser des contrôles internes et externes au sein de ces entreprises et réprimer le cas échéant du cas de négociation.
Professeur Boba.
Je crois que notre ami il dit quelque chose, il a fait des propositions qui me paraissent pertinentes. Je pense que, bon, rechercher des capitaux frais, avoir un personnel qualifié, mettre en place des mécanismes de contrôle des effets internes, c'est des choses qui sont intéressantes.
Théoriquement.
Théoriquement, en fait. Théoriquement, parce que, personnellement, j'ai l'impression que le problème, c'est l'idée même d'une entreprise publique qui consiste à convertir en société commerciale. Et tant qu'il y a des autorités politiques qui continuent à avoir une influence sur ces entreprises-là, je pense qu'on ne peut pas arriver à des résultats, quel que soit ce qu'on peut faire en termes de recherche de capitaux ou bien de mise en place du personnel qualifié. On a mis des gens qualifiés dans des entreprises, mais au bout de quelques temps, ils deviennent inefficaces. Il est bien inefficace parce que si vous prenez l'ADG de Vodacom, il sait très facilement engager quelqu'un, il sait mettre à la porte quelqu'un, qui commet une faute, etc. C'est différent de l'ADG d'une entreprise publique. Il ne sait pas recruter, il ne sait pas engager, il ne sait pas faire affaire à la banque pour avoir des financements, etc. Donc c'est l'idée d'une entreprise publique qui a été mauvaise dans notre pays et je crois aussi à travers le monde un peu. Il faut revenir à l'idée des entreprises mixtes ou bien des entreprises, pourquoi pas, privées certaines, on peut les privatiser. Moi, je n'aime pas peur de ce mot-là. Privatiser certaines entreprises pour permettre qu'elles puissent bien fonctionner et qu'elles puissent produire des biens et des services. Évidemment, il y a tout un tas de problèmes endogènes, exogènes qui ont freiné le fonctionnement des entreprises publiques, problèmes exogènes comme la situation économique du pays, comme les situations monétaires, comme l'impossibilité d'accéder au crédit bancaire, etc., etc. Problèmes endogènes, la mauvaise gestion, les mauvaises interférences des responsables politiques et autres qui empêchent les entreprises de fonctionner. Je crois que on est bien parti pour modifier cette idée de l'entreprise publique qui est en fait une illusion, d'après moi. C'est une illusion, il faut la changer et mettre en place des structures qui peuvent fonctionner et en faisant appel à des capitaux prêts ou à des équipements, etc.
Professeur, il y a cet auditeur Paco, mais Papa et Poto Poto de Colosio Katanga qui dit « Rien ne va changer dans ces entreprises que nous connaissons, tout est politisé à outrance, même la nomination des mandataires se fait sur base politique. Pouvons-nous, professeur, finalement, dans le contexte congolais, nous départir de cette influence politique ?» Le professeur Bagnac a semblé la minimiser.
Bon, moi aussi, je peux minimiser aussi cette influence politique, dans ce sens que finalement, les personnes qu'on place à la tête des entreprises, le sont par des responsables politiques qui ont gagné des élections et qui ont un plan, un programme appliqué. Donc ces responsables politiques font appel à des gens qui ont la même vision qu'eux pour piloter ces entreprises. Mais ce qu'il faut éviter, c'est par exemple des interférences journalières, par exemple qui viendraient du ministère du portefeuille et qui empêchent les responsables de pouvoir prendre des décisions au moment où il faut les prendre. Je crois que ce sont ces genres d'interférences qu'il faut éviter. Parce que bon, je ne dis pas que je gère une entreprise publique, mais je gère un établissement public, et je me rends compte à quel point c'est vraiment difficile de prendre la décision, sur le plan du personnel ou sur d'autres plans, parce que vous avez des gardes-fous qui sont là, qui vous empêchent de prendre des décisions. Donc, je crois que ça c'est un problème qui empêche le décollage des entreprises publiques dans notre pays.
Alors, Kitenge, avant de donner votre point de vue, prenons cette réaction qui nous vient de s'apprendre en Afrique du Sud.
Pascal Mwamba, depuis l'Afrique du Sud, précisément à 7 ans, les entreprises publiques congolaises doivent cesser d'être soumises au dictat des politiciens en invitant des nommés de mandataires provenant des partis politiques, car c'est ce qui crée l'inefficacité de beaucoup d'entreprises qui sont minées par la corruption.
C'est vraiment deux métiers très différents, la politique et la gestion d'entreprise. Ces métiers sont tellement différents qu'il est difficilement envisageable d'avoir des politiciens à la tête des entreprises. C'est pour ça que les politiciens, à leur place, lorsqu'ils sont dans les entreprises, c'est dans le conseil d'administration, s'ils représentent l'État. Et généralement, on recourt aux meilleurs d'entre les politiciens pour représenter l'État dans les conseils d'administration parce qu'ils déterminent la vision qu'on doit pouvoir impliquer à l'entreprise. Mais pour gérer l'entreprise au quotidien, il faut des gens qui ont des compétences extrêmement précises. Et ces personnes sont censées jouir de leur indépendance. Ces personnes sont des oiseaux rares qu'on recrute, non pas à l'appel comme on l'a fait dans ce pays, on les recrute en les sélectionnant. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des gens qui sont au chômage. Il est anormal d'avoir à la tête d'une entreprise quelqu'un qui vient du chômage. Et donc, ces personnes sont censées au quotidien engager l'État. Ils répondent au conseil d'administration dans les assemblées générales. Et parce qu'ils sont généralement membres de l'Assemblée générale, ils répondent aux actionnaires une fois par année, à la fin de l'année, avec le bilan de l'entreprise. Et chez nous, très malheureusement, le drame, c'est qu'on voudrait contrôler le gestionnaire au jour le jour parce qu'on ne lui fait pas confiance. En fait, ça pose toute la question de l'indiscipline, ou vous pouvez appeler ça autrement, de la corruption, qui s'est un petit peu généralisée chez nous, simplement parce qu'il y a malheureusement une filigrane négative qui amène les gens à des postes. Et je crois que la perturbation politique que nous avons connue peut justifier un certain nombre de choses, mais il est temps d'arrêter et de se poser les bonnes questions. Et la bonne question, c'est de savoir qu'est-ce que l'État veut réellement faire de ses entreprises. S'il veut en faire des centres de profit, il y a donc une conduite à prendre, mais il restera une limite, c'est que l'État congolais n'a pas d'argent pour investir dans ses entreprises. L'une des choses qu'il faut faire pour les rendre performantes et rapidement, c'est les démembrer. On a des sociétés trop grosses pour être en mesure de bouger. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut spécialiser et qualifier les entreprises par métier. Ça leur permettra de pouvoir travailler en service client-fournisseur. Ça permettra, par exemple, de ne pas avoir 150 métiers dans une entreprise. Ce n'est pas raisonnable. Et là-dessus, je pense que l'État congolais doit avoir le courage. Il se pose toujours cette question qui prend tout le monde en otage. C'est la question du passif social. Les gens qu'il faut démobiliser d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, c'est une décision politique. Et aujourd'hui, l'État congolais a le devoir de prendre des décisions politiques courageuses.
Alors, Al-Kitenge, entre le démembrement de ces entreprises que vous estimez trop grosses et la privatisation, où est la limite?
Non, c'est un gros désordre. Prenez l'ONATRA, par exemple. Ils ont une dizaine, une quinzaine de métiers, les uns qui ne sont pas de leur lignée. Je vous dis, par exemple, que l'ONATRA a une concession forestière qui est en faillite. L'ONATRA a un chantier naval qui est en faillite. L'ONATRA a des hôtels qui sont en faillite. L'ONATRA a un parc immobilier important qui est en très mauvais état. Et en fait, à un moment donné ou à un autre, il faudrait bien que l'État décide de spécialiser les différentes entreprises par corps de métier. Et ça permettra, même lorsque vous faites appel à des privés, qu'il y ait une visibilité nette sur le court et le long terme. C'est important pour être en mesure d'attirer les gens. Cela ne veut pas dire que si demain on ouvre le capital, il y aura des gens qui vont courir. Nous sommes un pays où le taux d'intérêt est autour de 15 à 20%, les capitaux n'affluent pas ici. Il y a donc des conditions supplémentaires qu'il faut mettre en place. Les entreprises doivent être à taille gérable. Et aujourd'hui, quand vous regardez la Gécamines, elle n'est pas gérable. Lorsque vous regardez la SNEL avec ses multiples métiers, la SNEL n'est pas gérable. Et donc, à côté de ça, il faut briser un certain nombre de monopoles.
parce que les monopoles empêchent la concurrence, et s'il y a la concurrence, les gens vont devoir essayer de faire mieux.
Professeur Bagnacou, je vous vois suivre très attentivement Alkitengue. Quelles sont vos propositions concrètes pour rendre plus compétitives les sociétés, les entreprises congolaises? Alkitengue pense qu'il faut beaucoup de moyens, il faut les démembrer encore des métiers.
Je m'exprime difficilement à ce débat dans ce sens-là, puisque je me dis, lorsque vous vous trouvez dans un capital totalement, volontairement ou involontairement déprécié, mais tous les débats ici, ça devient compliqué. Imaginez-vous, par exemple, pour la fameuse transformation, comment est-ce qu'on appelle cette transformation, mais imaginez-vous qu'il n'y a qu'une seule société, c'est-à-dire la SNEL, qui a 2 milliards de valeur nominale. 2 milliards. Toutes les autres, je prends ici là, la Congolais des Hydrocavis, c'est 41 millions de dollars. Vous vous rendez compte? 41 millions de dollars. C'est-à-dire que si c'était vrai, mais le premier étranger qui sont même déjà ici se serait accaparé de ces 41 millions. Ah, puisque là, la valeur d'action par action, c'est 10 000 dollars. 10 000 francs par an congolais. Ça veut dire quoi? 10 000 francs, vous divisez par 10, ça dit 1 000 dollars. Enfin, même pas 1 000 dollars.
Alors, c'est plus compliqué. Alors, moi, alors, je vous dis, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut reprendre la démarche. C'est un peu dans le sens qu'a dit le professeur Bois, et j'ai dit, mon ami Kitengue l'a dit aussi, la compétition a ses règles. C'est-à-dire, si nous prenons l'option de rendre nos capitaux, les nôtres, ce que nous disposons comme élément capital immobilier, de rendre, perfectible, compétitif, il faut d'abord, la gestion viendrait même, comme on dit, un apport, n'est-ce pas? La réalité, c'est de savoir quel est notre capital réel. Cet exercice, nous refusons de le faire. Quel est notre capital réel? Quand vous donnez, par exemple, pour une société comme la RVA, vous donnez à la RVA, par exemple, seulement 300 millions de dollars. 300 millions avec tous les aéroports que vous avez et tout ça là.
Il faut réévaluer le patrimoine.
Ah ben oui, il faut le prendre. Je ne dis même pas réévaluer, c'est le terme fort, mais il faut le prendre, il faut l'évaluer en termes réels, de sorte à ce que la dépréciation, d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas mener en cotation, c'est-à-dire en marché financier, un capital déprécié.
Donc, mais à ce stade, professeur, est-il possible de répondre?
On ne saute pas l'histoire. On reprendra l'affaire.
Professeur Boisbois, il faut reprendre la démarche, c'est la position du professeur Bagnacou.
Bon, je crois que. Moi, je suis toujours d'avis qu'il faut regarder toujours au-devant. Parce que le temps passé ne revient pas. Si on passe tout le temps à chercher à établir le capital de ces entreprises, on risque de pouvoir, perdre le temps, si on peut dire. Il faut regarder toujours en avant et continuer à avancer,
même si ça a été mal fait, comme le prof Bagnacou.
Non, ça a été mal fait, mais on ne pourrait pas bien le faire à un certain moment. On ne pourrait pas bien le faire parce que je ne sais pas si on a des experts dans ce pays ici qui pourraient établir le capital de la SNEL ou bien de Ronatra, je ne sais pas, et le temps que ça prendrait pour le faire. Donc, établir la valeur de tous les immeubles de Ronatra, de tous les vieux bateaux qui sont dans le... Donc, moi, je pense que ça mettrait beaucoup de temps. Il faut essayer de fixer même des forfaits de ce capital et essayer de... avancer. Mais la question qui se pose, on avance vers où? Vers quoi, en fait?
Alors, vers quoi? On avance vers quoi, professeur?
Ben, moi, j'ai dit que... Non. Moi, j'ai dit qu'il faut avancer vers l'appel à l'investissement privé et national et international dans ces sociétés-là. Donc, c'est l'appel à la privatisation, si on peut dire. En totalité ou en partie de ces entreprises-là.
Alkitengue, votre réaction par rapport aux propositions de professeurs?
Les professeurs ont totalement raison, mais ils ont l'art d'éviter le vrai problème. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des canards boiteux, nous avons des cadavres. Aujourd'hui, si on voudrait passer le temps à essayer de savoir ce qu'il y a dans la Gécamine, on resterait des années.
À mon avis, encore une fois, il faut constituer des sociétés à taille gérable, il faut avoir le courage de démembrer ces unités et être en mesure de les doter de gestion correcte afin que ces entités soient attractives et qu'on soit rapidement en mesure d'attirer des capitaux dedans. J'explique de manière claire. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la plupart d'entreprises publiques que nous avons, un directeur général adjoint, quelle que soit la dénomination que l'on avait, on avait un directeur financier, un directeur technique. Vous savez à quoi sert une société commerciale ? C'est à vendre. On n'a jamais connu, à ce niveau-là de responsabilité, des administrateurs-directeurs commerciaux. C'est la première faute de gestion. En fait, ça montre clairement que nous n'avions jamais réellement compris ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, la fonction fondamentale d'une entreprise, c'est le marketing et les ventes. Donc, il faudrait bien que dans la configuration de la direction de gestion qui sera mise au niveau des entreprises commerciales, nous ayons en tête le fait que nous devons vendre des produits qui rendent la rentabilité à l'entreprise. Mais pour ça, il faudrait donner une certaine indépendance au directeur général, au gestionnaire. C'est à lui que revient la charge de désigner les gens qui dépendent de lui. Une faute grave a longtemps miné la gestion des entreprises publiques. Le conseil d'administration a été nommé par décret présidentiel. Le comité de gestion a commencé par le directeur général jusqu'aux autres administrateurs étaient nommés par décret présidentiel. Et il était très difficile d'assurer une certaine hiérarchie. La gestion, c'est une question de commandement.
Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer cette émission. Nous allons prendre quelques réactions des auditeurs. Gérard Kazingoufou de Bénion Nord Kivu, transformer des entreprises publiques en sociétés commerciales ne peut alléger la misère des Congolais parce que ce sont les mêmes politiciens qui seront actionnaires alors qu'ils sont vaccinés contre la philanthropie. Augustin de Kalima au Maniema, qu'elle soit effective ou pas, cette passation n'accouchera que d'une souris. Je pense que le gouvernement ferait mieux de privatiser ces entreprises, car je constate que bon nombre d'entreprises devenues étatiques ne produisent pas faute des capitaux et de la mauvaise gestion. Kassamba de Bouya en province orientale, il faut éviter de désigner des mandataires sur base de clientélisme politique. Le recrutement des gestionnaires, surtout parmi les cadres enfants de la maison, car ils connaissent mieux l'entreprise où ils restent depuis la nuit des temps. Kassereka, Vitekere de Goma en Nord Kivu, le changement des entreprises publiques congolaises en société commerciale ou établissement public aura-t-il de l'influence sur la gestion de ces entreprises, car leur gestion financière en RDC ne s'est jamais accommodée à la gestion des entreprises étrangères, et si un tel changement s'opère, le plan financier dans ces entreprises doit être un gros calibre causal de ce dernier. Professeur Bagnacou, nous allons aborder la série de conclusions. Qu'est-ce que les auditeurs qui vous suivent en ce moment peuvent retenir par rapport à ce processus?
Je voudrais dire peut-être apporter une petite correction lorsqu'on parle de la difficulté de faire l'évaluation, mais je dis que c'est faux. Je vous dis, j'ai eu au moins l'occasion deux fois, quand on fait chaque ministre qui arrive dans la remise et l'épise, les sociétés sous sa tutelle apporte toujours l'évaluation, l'état réel de l'évaluation de société. Donc, si ça ne, on ne peut pas faire, si volontairement on a éliminé ça, mais la vérité, c'est que ça existe. Mais alors, pour conclure, je dirais ceci, j'ai dit, apprécier un capital, ce n'est pas une histoire d'esprit, c'est une histoire de réalité.
Professeur Bobo, conclusion.
En conclusion, je voudrais de féliciter le gouvernement pour ce qu'il a déjà fait dans le processus juridique et économique de transformation des entreprises publiques, mais je voudrais leur demander de pouvoir être courageux et aller de l'avant dans ce processus-là pour que nous puissions avoir des entreprises publiques commerciales et qui attirent des capitaux
frais.
Ce pays a des enfants capables de gérer des entreprises. On a la BAT qui est gérée par Luc Badibanga, qui est un jeune Congolais, ça marche très bien. On a Richard Lukusa qui gère une banque sur le boulevard et ça marche très bien. Et il y en a bien d'autres. Je crois simplement que ce pays doit pouvoir se décomplexer. On nous a amené des gestionnaires blancs, on a vu ce que ça donne. Pour les entreprises, il ne faudrait pas non plus prendre des gens parce qu'ils sont de gauche ou de droite, il faut les prendre parce qu'ils ont des capacités.
Voilà, vous l'avez compris, Dialogue entre Congolais a un nouveau générique, il va falloir s'y habituer. Cette émission est terminée pour aujourd'hui. Kéline Kouté, Samuel Kachak et Guy Mathieu Blanc préparés sous la supervision de Téléquipe et La Mondo, à la technique Patrick Kiasongwa et Jean-Claude Ciel, la présentation Alain Hiroumouché. Merci et bon petit programme sur Radio Capi. Thank you.
Thank you.